Vous écoutez RTL.
Il est pile 18h.
RTL Soir.
Philippe Robuchon.
Bonsoir à tous. Notre-Dame-des-Landes, dernière visite sur place avant décision. Édouard Philippe a surpris tout le monde ce matin. Il s'est rendu en Loire-Atlantique, dans les communes où s'opposent les pro- et anti-aéroports. Dans un instant, on va réentendre le Premier ministre. On va voir ce que les habitants de Notre-Dame-des-Landes ont pensé de ce déplacement. Et puis, invité de RTL Soir, Jean-Claude Lemasson, le maire de Saint-Aignan de Grandlieu. Le choix d'étendre l'actuel aéroport de Nantes serait, pour sa commune, une catastrophe. 29 personnes interpellées ce matin en gare de Lapardieu, à Lyon. La police a dû intervenir dans un TGV investi par des dizaines de jeunes passablement éméchés. Dans ce journal également, la colère des gardiens de la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Ils réclament le départ de leur directeur. 15 ans après sa disparition, une nouvelle marche silencieuse aujourd'hui pour Estelle Mouzin. Vous entendrez Jack Lang qui a répondu à sa façon à Donald Trump en le qualifiant, je cite, de « président de merde ». Et puis on vous fera revivre évidemment la première sortie publique, c'était ce matin, de Wang Mang, le jeune panda du zoo de Beauval. Football, 20e journée de Ligue 1. Depuis 17h, le Stade Rennais reçoit l'Olympique de Marseille. Sous vos yeux, Philippe Audouin, bonsoir.
Bonsoir Philippe. Et l'Olympique de Marseille qui mène logiquement 2-0, but de Germain et Sanson aux 35 et 45e minutes. Première période extrêmement vivante et agréable.
En Ligue 2, cet après-midi, Lorient a battu le Gazélec Ajaccio 4-1. En Coupe d'Europe de rugby, La Rochelle a perdu cet après-midi chez les Irlandais d'Ulster. Défaite 20-13. Quant au match entre les Anglais d'Exeter et Montpellier, c'est quasiment terminé et quasiment perdu, puisque Montpellier, à 2 minutes de la fin, est mené 38-8. Les courses, Quintet Plus à Vincennes cet après-midi, combinaison gagnante 17, 15, 5, 11 et 8. Rendez-vous avec Bernard Glass comme tous les samedis soirs vers 18h20 pour les pronos de demain. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
La tendance météo?
Avec une dégradation pluvieuse cette nuit et demain tout au long de la journée sur la moitié sud du pays, des pluies qui seront soutenues et orageuses notamment sur le sud des Cévennes et près donc du golfe du Lion. Le temps sera plus calme sur la moitié nord, quelques éclaircies après la grisaille matinale et des températures entre moins 1 et 8 degrés demain matin, 3 à 14 degrés dans la après-midi cette saison.
Les détails dans 20 minutes. Merci Patricia.
RTL Soir.
Philippe Robuchon.
Même le maire de Notre-Dame-des-Landes n'était pas au courant. Il a été prévenu seulement une heure avant. Édouard Philippe a donc effectué ce matin une visite surprise dans la région nantaise à quelques jours de la décision finale concernant le futur aéroport. Je suis venu pour voir et pour écouter, a dit le Premier ministre.
Depuis quelques jours, j'ai multiplié les consultations. Près d'une centaine d'élus, parlementaires, maires, présidents d'exécutifs locaux sont venus à Matignon. J'ai lu beaucoup, j'ai rencontré beaucoup et il était aussi indispensable que je puisse voir. Parce que vous savez, quand on veut réfléchir bien, c'est bien d'écouter, c'est bien de lire, c'est bien de voir aussi. Ça nourrit ma réflexion. J'ai eu l'occasion de dire que nous annoncerions une décision avant la fin du mois de janvier. Je reste bien entendu sur ce calendrier. C'est une décision difficile à prendre. Il est bien naturel que sur un dossier aussi ancien, nous essayons de prendre en compte l'ensemble des arguments, l'ensemble des éléments techniques, mais croyez-moi, quand la décision sera rendue publique, j'aurai l'occasion de vous dire sur quels éléments elle se fonde. Pour l'instant, elle n'est pas prise. Elle exige encore quelques consultations. Tout le monde saura le moment où elle est prise, dans quel sens elle ira.
Le Premier ministre Édouard Philippe, la première étape de sa visite surprise tôt ce matin a donc été Notre-Dame-des-Landes. Il a rencontré le maire Jean-Paul Naud, opposé à l'installation d'un aéroport sur sa commune. Les habitants, eux, n'ont quasiment rien vu, rien entendu. Sur place pour RTL, Nicolas Bobby.
Ah oui, on peut compter sur les doigts d'une main. Les Landais, c'est le nom des habitants qui ont vu le Premier ministre au petit matin descendre d'une voiture aux vitres teintées. Karine le regrette beaucoup.
Je suis très déçue de ce côté-là, puisque c'était trop tôt, donc comme nous n'étions pas au courant, malheureusement, on n'a même pas pu l'apercevoir. Donc on attend évidemment le résultat impatiemment. Pour l'économie, oui, je suis pour. La petite vie tranquille à Notre-Dame-des-Landes n'aurait plus lieu.
Alexis a fait son jogging dans le bourg, bien trop tard, le chef du gouvernement était déjà reparti.
S'il est venu juste sur la place de l'église devant la mairie pour faire 3 photos, ça sert à rien. Il a rencontré le maire, d'accord. Bon bah déjà c'est un bon point déjà. Est-ce qu'il a été sur la ZAD? Est-ce qu'il a été rencontré des opposants historiques? Non. Bon, ça aurait peut-être été bien. Forcément qu'on préfère pas avoir d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Surtout qu'il est inutile, encore une fois c'est inutile. Il n'y aurait pas d'aéroport à Nantes, ça se poserait différemment.
L'exécutif a jusqu'au 31 janvier minuit au plus tard. pour trancher.
Au reportage Nicolas Bobby à Notre-Dame-des-Landes pour RTL. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est ensuite rendu à Nantes. Il a dialogué avec la maire Johanna Roland qui défend le projet d'un nouvel aéroport. Position qui est également celle de notre invité, Jean-Claude Lemasson. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, commune de 4000 habitants au sud de Nantes. Je précise que Saint-Aignan est au bout des pistes de l'actuel aéroport. Le fait que le Premier ministre soit déplacé en personne à Notre-Dame-des-Landes, à Nantes, puis à Saint-Aignan ce matin, qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est une bonne chose. Encore une fois, c'est quelqu'un qui me paraît pragmatique. Il a besoin de se rendre compte, lui, en personne, de la véracité d'un certain nombre de données. Il a été voir les deux communes principalement exposées. Donc il vient sur place prendre le pouls, mais aussi la mesure des conséquences par rapport à la décision que l'État a menée à prendre. Ça me semble rassurant au regard du travail considérable mené par les uns et par les autres, au regard du bien-être des populations concernées.
C'est pas de la communication.
C'est pas de la communication. Je vois pas en quoi ça serait de la communication pure et dure, dans le sens où il n'irait pas voir les deux parties. Enfin, ça me paraît pas cohérent. Et caresser les gens dans le sens du poil en disant « je vous ai entendu, vous inquiétez pas », enfin, c'est un moment ou un autre, le retour du boomerang peut être assez difficile.
Pour vous, évidemment, le choix de Notre-Dame-des-Landes, 40 km plus au nord, s'impose.
Bien évidemment. Ce choix s'impose d'abord parce qu'il est nécessaire de retrouver au Grand Ouest de la France une vraie plateforme aéroportuaire. Et puis, bien évidemment, pour le reste, au regard de la particularité de ma commune, il est nécessaire que ce transfert s'organise le plus vite possible.
L'agrandissement de l'actuel aéroport Nantes-Atlantique, ce serait évidemment pour vous et votre commune des nuisances supplémentaires.
Ce serait non seulement des nuisances complémentaires, mais au-delà des nuisances acoustiques et atmosphériques et pollution atmosphérique qui en découleraient. On parle bien de la survie de la commune de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Parce qu'il faut bien imaginer qu'en étant situé en bout de piste, le bourg est quasi dans l'axe de la piste, qui sous-entend que ce bourg ne peut pas se développer. Nous n'avons pas le droit de construire du logement dans ce bourg, ce qui veut dire que ce bourg va se vider au fil du temps. Il y a déjà quelques maisons en vente d'ailleurs.
Oui. Ce matin, vous avez donc revu à Saint-Aignan, il est venu chez vous, le Premier ministre. Vous l'aviez déjà vu, je crois, cette semaine à Matignon. Est-ce qu'il vous semble avoir pris sa décision ?
Je ne pense pas. Enfin, il ne me paraît pas être convaincu totalement de la décision. C'est quelqu'un qui me semble être très pragmatique. C'est un ancien maire. Il sait aussi ce que c'est que manager une commune et aménager le territoire d'une commune et d'une agglomération. Il vient se rendre compte sur place, si ce n'est de la véracité, au moins contenu précis des notes qui lui sont transmises par les uns et par les autres. Voilà, il est en cours encore d'appropriation.
Dernière question, monsieur Lemasson. Que ferez-vous si le gouvernement choisit d'étendre l'actuel aéroport de Nantes ?
À vrai dire, la question se pose déjà depuis pas mal de temps. Il est clair que nous sommes dans une situation où nous ne serions plus en mesure de faire ce pourquoi nous avons été élus. Pour autant, les citoyens ici attendent sans doute de son maire à ce qu'il les défende dans les procédures qui seront à mener, procédures que nous avons déjà engagées d'ailleurs, par une saisine du gouvernement le 14 novembre dernier.
Merci Jean-Claude Lemasson d'avoir été en ligne dans RTL Soir. Je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, donc commune qui se trouve tout près, au bout des pistes, vous nous le disiez tout à l'heure, de l'actuel aéroport de Nantes. Merci beaucoup.
Bonsoir.
Quant à Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes et ancien Premier ministre favorable au projet de Notre-Dame-des-Landes, il s'est également exprimé aujourd'hui. Il estime qu'abandonner Notre-Dame-des-Landes serait un choix opportuniste, tactique, mais ne serait pas un choix durable.
RTL Soir.
Philippe Robuchon.
Une scène impressionnante ce matin à Lyon, en gare de Lapardieu. À la demande de la SNCF, la police est intervenue pour mettre fin à des débordements à bord d'un TGV. Le train parti de Paris tôt ce matin devait aller à Évian. Mais le trajet à bord a été tellement mouvementé qu'il a été détourné, ce train, vers Lyon. En cause, 200 passagers très turbulents qui se rendaient dans les Alpes et dont manifestement certains avaient trop bu. À Lapardieu pour RTL, Arnaud Grange.
L'intervention était spectaculaire par son ampleur. Plus d'une centaine de policiers ont été déployés dans la gare de Lapardieu pour remettre du calme à bord d'un TGV. L'alerte a été donnée par une contrôleuse présente dans ce train qui transportait 660 passagers, dont 200 membres de la communauté des gens du voyage. Mais certains, particulièrement éméchés, ont commencé à mettre la pagaille une demi-heure après le départ. Jets de nourriture, boissons volontairement renversées sur les sièges, le personnel de bord a rapidement été dépassé face à une quarantaine de fauteurs de troubles. Résultat, il a fallu fermer le wagon-bar et faire une halte non prévue en gare de la Part-Dieu pour permettre l'intervention des forces de l'ordre. Ce passager impressionné était à bord du train.
Ils ont sécurisé le train. Au début, on ne pouvait pas sortir du tout. Tous les quais étaient complètement fermés. Et tous les quais, il n'y avait plus personne sur les quais nulle part, à part la police. Ça a été plutôt bien géré par la police, qui est très présente, mais agréable. Voilà, on ne va pas en vouloir à M. Pépi pour ça.
Bilan, 29 interpellations, 3 gardes à vue. Personne n'a été blessé. Il n'y a aucune dégradation. En revanche, le train, qui est reparti avec 2 heures de retard, va devoir faire l'objet d'une grosse opération de nettoyage.
Arnaud Grange à Lyon pour RTL. Les syndicats de gardiens de prison ont claqué la porte ce matin. Ils participaient à la chancellerie à une réunion 2 jours après l'agression par un détenu islamiste de plusieurs surveillants à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Lundi prochain, un mouvement de grève est prévu dans toute la France pour dénoncer le laxisme des autorités. Et mardi matin, le lendemain, les gardiens de Vendin-le-Vieil menacent de boycotter la visite de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Ils exigent notamment le départ préalable de l'actuel directeur de la prison.
Notre première revendication, c'était le départ du directeur pour ses nombreuses erreurs au cours des 3 années. Et là, il est dangereux, il est incapable, il perd pied. Là, il a ôté les procédures d'équipement qui auraient pu éviter cette agression. Il faut qu'il bouge, quoi. On n'en veut plus. On garde des gens qui ont fait des actes de terrorisme. Il faut en plus avoir les moyens matériels, un équipement, c'est avec un casque, un bouclier. Sauf que le directeur a jugé bon de ôter ses protections pour les agents. On a le résultat. Comment on va faire à l'avenir ? C'est que le début. Il y a tous ceux qui vont venir de Syrie, tous les combattants. On a des petits jeunes de 13 ans qui est incarcéré. Il a coupé des têtes en Syrie. Comment voulez-vous qu'on garde quelqu'un comme ça ? Nous, on n'est pas psychologue, on est surveillant de prison, quoi. Et pour mardi, on va accueillir notre cher ministre garde des Sceaux pour lui bloquer l'accès. Cette dame dit que le portique... Non, avant d'Alveil, il n'y a pas de portique, Madame Belloubet. Ce serait bien de venir nous visiter avant de parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Et okay. S'il faut, il faudra qu'elle passe sur notre corps aussi. Si le gouvernement écoute mes paroles, on ne lâchera pas.
Grégory Stemzek du syndicat UFAP Prison, joint pour RTL par Maxime Wolf. 3 jours après le braquage du Ritz à Paris, 3 suspects mis en examen à Écroué. Aujourd'hui, ils sont bien connus des services de police. 2 autres suspects sont toujours recherchés. Dans un instant, la suite du journal. On va aller à Guermantes, en Seine-et-Marne. Il y a 15 ans, c'est là qu'a disparu Estelle Mouzin. Une marche à sa mémoire était organisée cet après-midi. Son père, cette semaine, a porté plainte contre l'État. Il estime que les autorités l'ont abandonné.
RTL Soir, Philippe Robuchon.
Le 9 janvier 2003, il y a 15 ans, Estelle Mouzin, une petite fille âgée de 9 ans, disparaissait à Guermantes en Seine-et-Marne. 15 ans plus tard, malgré un dossier judiciaire de 85 000 pages et malgré le travail de 7 juges d'instruction, les policiers refusent toujours de rédiger une synthèse de cette affaire. Le père d'Estelle, Éric Mouzin, a porté plainte cette semaine. Vous l'avez peut-être entendu, il attaque l'État pour faute lourde, reprochant aux autorités d'avoir abandonné les recherches. Cet après-midi, comme tous les ans depuis 2003, une marche silencieuse avait lieu à Guermantes en mémoire d'Estelle. Sur place, pour RTL, Alice Moreno.
Oui, 100 de personnes se sont réunies place du temps perdu, là où Estelle Mouzin a été aperçue pour la dernière fois. Tous ont marché en silence, en sa mémoire, mais aussi en soutien au père de la fillette, Éric Mouzin, qui compte porter plainte contre l'État pour faute lourde.
Pour savoir si effectivement tout a été mis en œuvre et tout a été fait correctement, pour arriver à savoir ce qui s'est passé le 9 janvier 2003. Et effectivement, ça fait 15 ans, parce que je veux savoir ce qui s'est passé, parce que ma fille ne peut pas disparaître comme ça.
Il dénonce des dysfonctionnements de la justice, faute de moyens suffisants. Michèle vit dans le village voisin, c'est la première année qu'elle participe à cette marche, sensible à la détresse du père d'Estelle.
Je suis là un peu en soutien, parce que je pense qu'on doit aider, on doit soutenir, on doit pas laisser faire une chose pareille.
La marche a pris fin au pied d'un cerisier planté dans le village en mémoire de la fillette. L'émotion s'est emparée de la foule. Cédric était enfant quand Estelle a disparu. Il se souvient de son visage placardé partout.
À l'époque, je me rappelle qu'il y avait eu cette image qui avait tourné dans les écoles, que tout le monde était un peu dans, une situation où on se disait qu'est-ce qui se passe. Disons que 15 ans après, à mon avis, il y a beaucoup de personnes du coup qui ont eu tendance à se dire, enfin à oublier.
Surtout, ne pas oublier, relancer l'enquête s'il le faut, car la douleur est toujours aussi vive.
Alice Moreno à Guermantes en Seine-et-Marne pour RTL. Raciste, abject, ignoble, les propos de Donald Trump continuent de susciter l'indignation partout dans le monde, même s'il dément ces mots. Le président américain jeudi soir a requalifié de pays de merde les nations d'origine des migrants qui tentent d'entrer sur le sol américain. 54 pays africains ont déjà demandé des excuses, idem de la part des autorités haïtiennes. Parmi les voix qui se sont élevées depuis 48 heures, celle de Jack Lang en France. Habitué à un langage plutôt irréprochable, l'ancien ministre de la Culture a répondu à sa façon à Trump en le qualifiant, je cite, de « président de merde ». Jack Lang, joint pour RTL par Sinamir.
C'est un cri du cœur. Ce matin, entendant Trump à nouveau fustiger un peuple, en l'occurrence le peuple haïtien, je bouillir moi-même. Est-ce qu'on va rester silencieux face à ce type qui est quand même à la tête de la plus grande puissance du monde? Vous vous souvenez de la guerre, de la formule de Kennedy à propos de Berlin? Nous sommes tous Berliner. D'une certaine manière, nous sommes tous haïtiens. Monsieur Trump, en insultant les haïtiens, en les méprisant, offense aussi l'ensemble des citoyens du monde. Alors on a envie de lui dire, ça suffit. Ça suffit que chaque jour, ou plutôt 10 fois par jour, vous déversiez votre pile, votre haine, votre mépris, votre xénophobie. Je pense qu'il est aujourd'hui important que dans le monde entier, on se ressaisisse et on puisse faire entendre une véritable clameur contre un homme qui peut nous conduire à notre perte.
Jack Lang joint par Sinamir pour RTL. Il n'a que 5 mois, pèse plus de 10 kilos et c'est déjà l'un des bébés les plus photographiés au monde. Yuan Meng a effectué ce matin sa première sortie publique au zoo de Beauval. Yuan Meng, c'est évidemment le petit panda dont le pelage pour l'instant est plus proche du rose que du noir et blanc. Des milliers de curieux, vous allez l'entendre, sont venus de toute la France pour assister à cette première sortie. À Beauval pour RTL, Christian Panvert.
Les premiers visiteurs étaient là dès 8h. Delphine et son fils Kylian ont quitté l'Oise très tôt ce matin.
On s'est levé à 3h, on est parti à 4h04 exactement.
Pascal vient régulièrement du département voisin.
20 fois en 2017, depuis le temps qu'on l'attend qu'il sorte, alors je voulais être là le premier jour.
Comme Sylvia qui filme Yuan Meng, durcidé de 10 kilos, âgé de 5 mois, déambule dans son enclos vitré.
Un bébé qu'on attendait tous, une petite peluche qui a l'air toute douce mais qui je pense a déjà son caractère. Mais c'est juste magique de le voir grimper sur les rochers comme ça, d'évoluer malgré qu'on soit là derrière la vitre à le regarder.
Il descend une à une les roches là.
Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé là?
Je pense qu'il a failli faire une pirouette en glissant sur une roche un peu trop haute pour lui. La soigneuse court pour lui rendre service un petit peu, comme un enfant qui fait ses premiers pas, on va dire.
Delphine Delors, la directrice de communication du parc, ne s'attendait pas à un tel déferlement.
Je crois que les gens ont compris ce que représentait comme espoir la naissance de ce bébé panda.
Il devrait rester 3 ans à Beauval avant de partir en Chine.
Incroyable cet engouement, Christian Panvert à Beauval pour RTL. On revient au sport, 20e journée de Ligue 1. Où en est-on entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille, Philippe Audouin?
Toujours 2-0 Philippe pour l'OM après quasiment une heure de jeu, but de Germain et Sanson en fin de première période, alors qu'auparavant Thauvin avait vu son pénalty détourné par le gardien rennais. Des Bretons dominés assez nettement avant la pause, mais qui ont eu 2 grosses occasions tout de même, sauvées magistralement par Sakai et Mandanda. Et désormais en deuxième période, l'OM se contente de gérer 2-0 pour Marseille.
Merci Philippe, la suite et la fin avec Pascal Praud à partir de 18h30. En rugby, c'est terminé entre Montpellier et Exeter en Coupe d'Europe. Lourde défaite pour les Montpelliérains, 41-10. Patricia Charbonnier, rebonsoir.
Rebonsoir.
Le temps, donc, ça se dégrade hein, sérieusement ce soir dans le sud.
Ah oui, sur toute la moitié sud du pays, à partir de cette nuit et demain tout au long de la journée. Donc, on est parti pour 24 heures de mauvais temps. Des nuages, de la pluie et des pluies qui seront parfois soutenues et même orageuses. Sur le sud des Cévennes et sur l'Hérault, localement, nous aurons des cumuls assez importants et même de la neige à partir de 900 mètres. Sur la moitié nord du pays, ce sera encore un temps calme demain. Alors, on aura encore beaucoup d'humidité. Donc, des nuages bas, parfois même doublés de brouillard sur le nord-ouest du pays. Mais contrairement à aujourd'hui, on retrouvera quelques éclaircies dans l'après-midi sur le nord-ouest et sur l'île de France et même un temps très ensoleillé sur le quart nord-est, excepté en plaine d'Alsace où là le temps restera gris toute la journée. Puis les températures, quelques gelées demain matin de saison, moins 1 degré à Nancy, 0 degré à Lille, 2 à Paris, 8 à Toulon. Et dans l'après-midi, température comprise entre 3 et 14 degrés, 3 à Strasbourg, 5 à Lille, 7 à Paris, 10 degrés à Lyon, 12 à Nice et 14 degrés à Ajaccio. Et ensuite, ça va s'enchaîner, les perturbations vont s'enchaîner tout au long de la semaine prochaine. On attend beaucoup de pluie, beaucoup de neige nuages en montagne et on va surveiller de fortes rafales de vent.
Merci Patricia Charbonnier. 18h20, petite pause dans un instant, les courses avec le tandem glace Pierre Santi.